C'est tout l'enseignement du Seigneur à propos des occasions de chute, enseignement qu'on a en Matthieu 18, que je citais tout à l'heure, au début de Matthieu 18. Attention à l'exemple donné effectivement aux enfants, c'est ce qui a été dit aussi dans l'introduction, à tout ce que les enfants voient avec ces deux grandes instructions, donc Matthieu 18, 10, prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, les tenir pour rien, d'une manière ou de l'autre. Ils ont une très grande valeur aux yeux de Dieu. Et prenez garde de ne pas les empêcher, ne les en empêchez pas, laissez venir à moi les petits-enfants. On verrait dans les évangiles d'autres passages où le Seigneur les a pris dans ses bras. On voit là tout l'intérêt qu'il leur porte.
Les apporter, comme il nous est dit, et que c'est les disciples qui les empêchaient. Le désir des parents était bien que le Seigneur Jésus bénisse leurs enfants.
Nous avons un exemple, c'est David et Absalom. David n'avait jamais corrigé Absalom.
On a aussi l'exemple d'Élie, au début du livre de Samuel, à l'égard de ses deux fils. Et on voit comment ces deux fils se sont comportés.
Jusqu'à quel âge? Parce que les fils d'Élie n'étaient pas des enfants.
Toute l'éducation des enfants, par Élie, avait manqué dès le début. Très certainement. Et ce verset, « Tu honores tes fils plus que moi », c'est une constatation qui est faite peut-être à un moment donné, mais probablement que dès le début, les fils d'Élie n'avaient pas reçu peut-être l'enseignement et probablement les corrections qu'ils auraient dû recevoir. Et alors, effectivement, il y a un moment où les parents ne peuvent plus faire grand-chose et ils sont comme Élie, ils ne peuvent que considérer ce que, hélas, le résultat d'une mauvaise éducation. Pressons-nous de nous dire que ce sont des exemples qu'on trouve dans la parole, mais ce n'est pas quelque chose qui arrive, heureusement, aux parents qui ont manqué d'éducation vis-à-vis de leurs enfants, à tous. Mais enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver.
On l'a cité, ce verset qui est quand même très important dans l'introduction. Au Ézéchiel 18, verset 20, c'est dans la troisième rubrique « Transmettre la foi » du premier paragraphe. « L'âme qui péchera, c'est celle qui mourra. La justice du juste sera sur lui, la méchanceté du méchant sera sur lui. » Et comme disait Jean-Louis, c'est le problème de quand se termine l'éducation. Il y a une responsabilité personnelle des enfants. Nous savons bien, ce âge est différent pour chacun, mais il semble bien qu'à partir du moment où un enfant acquiert une autonomie financière en particulier, qu'il est capable de gagner sa vie, qu'il est capable de se gérer seul, il acquiert par là même une certaine responsabilité quant à sa vie personnelle. L'exemple des fils d'Élie, il ne faut pas se méprendre, c'est un piège parmi les frères et parmi nous donc. Il ne faut pas se méprendre sur l'exemple des fils d'Élie et pas le citer à tort et à travers. Je ne dis pas qu'on l'ait fait. Les fils d'Élie, c'est un cas très particulier. C'est le cas particulier d'une institution et d'une institution religieuse donnée par Dieu, où ce qui est reproché à Élie, c'est « Tu honores tes fils que plus que moi, mais il faut lire la suite. » « Pour vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. » Élie était responsable ici, non pas en tant que père de famille, mais en tant que chef de sacrificature. Et c'est à tort qu'on dirait ici que Élie aurait dû les corriger à ce moment-là. Ce n'était pas le moment, ils étaient bien trop âgés. Il aurait dû les chasser de la sacrificature purement et simplement. Sans doute y avait-il eu des mécomptes avant ou des manquements peut-être, mais ce qui est en jeu ici, ça n'est pas tellement une famille qu'une institution. Qu'une institution. C'est pas en tant que père de famille, sans doute la sacrificature était héréditaire, mais Élie est critiqué là comme responsable d'une institution donnée par Dieu, la sacrificature, et qui se corrompait dans ses fils. Il y a là quelque chose de toute importance. Ce verset ne doit pas être cité à tort et à travers, ne doit pas être surtout une cité comme culpabilité, élément de culpabilité à l'égard de parents dont les enfants peuvent avoir un chemin qui s'est détourné de l'enseignement qui leur avait été donné initialement, et comme si les parents devaient porter toute leur vie le fardeau de tout cela. Il y a une responsabilité personnelle. Et l'exemple des fils d'Élie, il nous faut y prendre garde, il est très particulier.
Je reviens juste là-dessus, mais ne peut-on pas dire qu'une personne qui enseigne dans l'assemblée plus ou moins la discipline et d'autres choses, si elle ne l'enseigne pas à ses enfants ou si elle ne reprend pas, ne le dit pas à ses enfants, ce n'est peut-être pas quelque chose de normal. Je crois que quelqu'un qui enseigne et quelqu'un qui a des responsabilités doit aussi être capable de le dire à ses enfants. Mais comme vient de le dire Jean, après, on ne peut pas aller plus loin. Les parents ne peuvent pas aller plus loin vis-à-vis de leurs enfants qui eux-mêmes sont responsables. L'application de l'enseignement, ce n'est plus la responsabilité des parents, je dirais. La responsabilité des parents, comme la responsabilité que l'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres, c'est de se dire les choses. Après, on ne peut peut-être pas aller plus loin.
Il semble bien que l'autorité des parents s'atténue au fur et à mesure que la responsabilité de l'enfant, du jeune homme, augmente. Je crois que il y a là quelque chose qui doit retenir notre attention. On le remarque bien, n'est-ce pas? Un jeune homme, au fur et à mesure qu'il avance dans la vie, eh bien, il a sa propre responsabilité, soit de prier, soit de lire la parole. Et bien sûr, alors, évidemment, la responsabilité des parents, eh bien, elle s'atténue progressivement à son égard.
Le but divin dans tout cela, c'est que d'une génération à l'autre, son témoignage soit maintenu, c'est-à-dire qu'il y ait de génération en génération des gens qui, ayant reçu la parole de Dieu, soient capables aussi de la transmettre à d'autres. Voilà la pensée de Dieu. Il est dit dans le livre des Actes qu'il ne s'est jamais laissé sans témoignage. Et la pensée de Dieu, c'est qu'effectivement, d'une génération à l'autre, d'une génération qui passe à l'autre génération, il y a ainsi une permanence de son témoignage à lui, ce qui est appelé son témoignage. Seigneur, disait Moïse, tu as été notre demeure de génération en génération.
Juste pour reprendre l'image de la barque que Bernard nous a donnée tout à l'heure, quand on rame dans une barque, ceux qui ont essayé, ce n'est pas du tout facile d'aller droit, car il faut un parfait équilibre entre le coup de la rame droite et le coup de la rame gauche. Et en fait, ils ne sont jamais parfaitement égaux, on est en permanence obligé, quand on appuie un peu trop à droite, d'appuyer un peu plus à gauche. Mais l'enfant qui nous regarde ramer s'aperçoit qu'avec de la volonté, on peut aller droit. Mais cela ne lui donne pas la capacité de ramer. À un moment, à un certain âge, il va être obligé, lui, d'avoir sa propre barque et ses propres rames. Et quand il va avoir sa propre barque et ses propres rames, il va s'apercevoir qu'il n'arrive pas à aller droit. Mais il sait que c'est possible puisqu'il a vu qu'on pouvait aller droit. Pour ça, il a besoin d'avoir cet exemple. Et il sait qu'avec l'aide de Dieu, il sait qu'avec tout ce qu'il a appris, petit à petit, il va pouvoir corriger, rectifier et zigzaguer de moins en moins et arriver lui aussi à réaliser ce que ses parents ont réalisé. L'exemple, c'est une chose, la pratique, c'en est une autre.
Si un enfant reste incrédule, on n'est pas autorisé à dire que ses parents l'ont mal instruit. Ce sont des choses qui nous dépassent, et puis le Seigneur est puissant pour faire que les choses changent. Mais nous n'avons pas de jugement ni de culpabilité, effectivement, à porter sur ces événements.
Concernant la transmission de la connaissance, il y a dans le livre du prophète Osée une parole très dure de l'Éternel qui responsabilise les parents. Dans Osée 4, au verset 6, « Mon peuple est détruit faute de connaissance, car toi tu as rejeté la connaissance, et je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant moi, car tu as oublié la loi de ton Dieu, et moi j'oublierai tes fils. » Bien sûr que nous, maintenant, nous sommes sous le privilège de la grâce et que, enfin, cette parole dure de l'Éternel est quand même responsabilise les parents devant la transmission et le respect de la connaissance.
Pour rebondir sur ce que venait de dire Jean-Louis, là, il y a deux minutes, c'est quelque chose qu'il nous faut effectivement retenir, c'est que ce n'est pas parce que des parents sont très pieux, ce n'est pas parce que la Bible est lue peut-être tous les jours dans cette famille, qu'hélas, des enfants ne vont pas se détourner. On a connu des familles où la piété était vraiment réalisée, et puis voilà, des enfants qui se sont détournés. Et surtout, prendre garde, effectivement, de ne pas culpabiliser des parents parce que les enfants se sont détournés. Il y a aussi une pensée, mais c'est dans un sens beaucoup plus large, et elle ne s'adresse pas spécialement aux enfants, elle s'adresse d'abord aux parents. Je pensais à ce verset de 1 Timothée 2, verset 5. Il est parlé de la maison. Si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Alors, sa propre maison, je pense qu'on peut bien voir là tout ce qui se passe dans sa maison, et peut-être en premier lieu les enfants. Je crois que c'est quelque chose qui peut nous disqualifier les parents, effectivement, si les enseignements de la parole de Dieu ne sont pas donnés aux enfants correctement. Eh bien, ça peut les disqualifier dans le rassemblement.
Et si on suit le texte tout spécialement ici, pour la surveillance, c'est-à-dire tout ce qui serait capacité à s'occuper de ce qui concerne l'Assemblée de Dieu d'une manière particulière. On a vu, et l'on voit encore, hélas, des frères qui font des pieds et des mains pour que, dans les assemblées, les choses se passent de telle et telle manière comme ils le désirent, et qui feraient mieux de s'occuper de leur propre famille. C'est ce qui est en vue ici.
Une heureuse conclusion dans la troisième épître de Jean. Je n'ai pas de plus grande joie que ceci, c'est que j'entende dire que mes enfants marchent dans la vérité. Voilà ce que dit l'apôtre Jean à Gaius. J'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire que mes enfants marchent dans la vérité. C'est ce que nous souhaitons tous.